Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mboujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. 6 millions d'enfants malnutris de la République démocratique du Congo seront pris en charge grâce à un financement de la Banque mondiale. Annoncé cette semaine, Inès Lesema, chef de la section nutrition au sein de l'UNICEF en RTC. Sur les 6 millions d'enfants malnutris chroniques, presque 2 millions ou 4 millions manifestent une malnutrition. Et selon vous, quels pourraient être les mécanismes efficaces pour mettre fin à la situation des malnutritions en RDC? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais le débat, c'est aussi sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Polydor Basunga est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Et c'est pour moi, Pierrot et Lemeji, un réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Plusieurs commentaires sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Urbain Mouigné-Mali dit ceci: c'est à travers les actions de résilience communautaire par la promotion de l'alimentation des nourrissons, jeunes et enfants, approche ange par l'éducation nutritionnelle et pour la santé, mettre en place des cellules communautaires des bases pour la nutrition et santé. Il y a aussi cette question de l'ignorance sur l'équilibre alimentaire qui est à la base de la malnutrition. Plusieurs personnes reviennent aussi sur les paradoxes congolais. Avec 80 millions d'hectares de terres arables, comment peut-on arriver à avoir un pays où les gens sont mal nourris? D'abord, il y a Idriss Machon qui dit ceci. Il est à Kananga, au Kasaï central pour lui. Il estime que la première chose qu'il faut faire, c'est pour maintenir, il faut maintenir la sécurité alimentaire dans toutes les couches du pays et éviter souvent les conflits coutumiers qui font que beaucoup de gens ne sont pas capables aujourd'hui de cultiver. Et quand ils se déplacent de leur terre, la malnutrition ne fait qu'accroître. Alain Bolodua, devant cette évidence indéniable, il faut formellement éviter des solutions palliatives. Il faut noter que cette situation est fondamentalement de nature structurelle. Et donc la meilleure solution reste la systématisation du secteur agricole qui part des productions passant par la distribution jusqu'à la consommation. Ainsi pour dire, veiller sur la disponibilité des aliments, l'accessibilité et surtout sur leur qualité. Olivier, vous êtes à Kikwit, merci de nous avoir rejoints. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, Pierrot, bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Et comment on peut arriver vraiment à endiguer la malnutrition dans un pays comme la RDC?
Oui, Pierrot, moi je pense que la solution est très simple. Et si nous sommes là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est un problème de volonté politique, parce que les priorités sont ailleurs. Je vous rappelle que hier, l'invité s'est presque moqué de la population en disant que on ne peut pas demander la nourriture à l'État. Alors que ici, au fait, les gens ne demandent pas la nourriture à l'État, les gens demandent que l'État ait une politique qui permette que les personnes se prennent en charge. C'est ça. Alors, l'agriculture ne fonctionne pas. On devrait avoir priorité l'agriculture. Et pas des fantômes comme Bukangalonzo, parce que Bukangalonzo c'est un fantôme. On nous a promis qu'on aurait les solutions avec Bukangalonzo, mais on avait bien dit à ce moment-là que Bukangalonzo seul comme entreprise, ça ne peut pas servir toute la République. Donc, on devrait avoir des entités comme Bukangalonzo dans toutes les provinces et en nombre vraiment indéfini. Mais malheureusement, vous constatez que même Bukangalonzo, qui a été vanté, ne produit presque rien. Moi, je n'ai jamais goûté un seul fruit venant de Bukangalonzo. Je ne sais pas si à Kinshasa, Bukangalonzo vous nourrit. Donc, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que j'ai l'impression que nous comptons plus sur les organismes comme UNICEF, PAM, ACF et la Banque mondiale, alors que les histoires, la solution se trouve entre nos mains. Donc, quand vous voyez la politique nationale en matière de nutrition, Et les gouvernants, les dirigeants donnent la responsabilité aux organismes extérieurs, alors que tout le monde sait très bien que ce n'est pas UNICEF qui va finir nos problèmes, ce n'est pas PAM ou ASEF. À Kikwit, nous avons eu PAM, nous avons eu ASEF, mais dès qu'ils partent, eh bien, le lendemain, les gens commencent à mourir là où la situation est catastrophique. Et je peux vous dire que maintenant, avec les guerres à répétition, eh bien, on a l'impression que c'est une situation voulue. Voulue, c'est-à-dire qu'on voudrait affamer la population vraiment jusqu'à la dernière goutte de sang et faire maintenant n'importe quoi. Je crois que là, nous devons faire très attention. Alors, un autre problème, c'est que les priorités, quand on dit, voilà, on a eu les priorités, les élections, je crois que ça, c'est aussi se moquer des gens. On ne peut pas dire « mourons de faim » pour avoir les élections. Non, ça, c'est vraiment une aberration. Donc, Pierrot, je crois que si les politiques sont incapables de faire l'agriculture ou de nous aider à faire l'agriculture, d'assurer la sécurité des agriculteurs, il y a des provinces où les gens font l'agriculture, mais l'insécurité a rendu tout le monde misérable. Et les gens meurent de faim à cause de cela. Prenons le cas, vous partez de Djougou, d'Alitouri, jusque dans le Katanga, c'est l'insécurité totale. Et l'autorité est silencieuse. C'est ça le drame aussi, Pierrot. Je crois qu'il faudrait que...
Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir peut-être relativiser, Olivier? Vous avez parlé de l'insécurité. Bon, quand vous dites que des Djougou au Katanga, c'est l'insécurité totale, cela veut dire qu'il faut relativiser les endroits où il y a l'insécurité et les endroits quand même où les gens ont la possibilité aujourd'hui de pouvoir cultiver.
Oui. Ici, chez nous, par exemple, dans le Bandundu, je peux vous dire que nous sommes des grands producteurs. Mais Pierrot, je peux vous raconter l'histoire de nos routes. Eh bien, pour faire 30 kilomètres, vous avez toute une semaine. Et ça, c'est une catastrophe. Et ça, on ne va pas demander à la population de commencer à faire encore les routes. Et si nous avons encore la chance d'avoir un sac de riz, c'est parce que nous avons placé des cantonniers. Chaque village se débrouille. Voilà donc, c'est vrai qu'il faut relativiser. Mais quand vous prenez le problème des routes de dessert agricole, l'État ne fait absolument rien. Ou l'État n'existe pas. Donc c'est ça.
Merci beaucoup Olivier. Ça dit qu'il y a d'abord la question de l'agriculture qui doit être considérée comme une priorité. Cela veut dire qu'il faut des investissements massifs dans les domaines de l'agriculture. Il faut, à côté de ces investissements, la question de routes de desserte agricole doit être considérée comme une priorité, ainsi que la lutte contre l'insécurité, parce que vous avez des zones de l'Est, par exemple, où il y a des zones avec des terres très fertiles où on produit beaucoup, mais les gens ne peuvent pas aujourd'hui cultiver pour produire à cause de l'insécurité. Ça dit que ce sont ces éléments pris ensemble dans une volonté politique qui peuvent aider le pays à produire assez de nourriture pour lutter contre la malnutrition. Merci beaucoup Olivier Gervais. Vous êtes à Calémie, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi qui sont en train de suivre en ce moment.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup monsieur Pierrot. Je tiens très à féliciter à l'intervention de mon prédécesseur qui vient de me céder un peu la parole tout de suite là. C'est que la plus grande question, ce que j'aurais bien voulu aborder dans le même sens que mon prédécesseur, c'est sur la politique nationale alimentaire, la sécurité alimentaire. Donc, sur le plan national, jusque là, on ne trouve pas un peu une meilleure politique parce que nous avons beaucoup d'ingénieurs. Mais on ne sent pas vraiment des initiatives concrètes qui peuvent mettre la famille hors état de nuire. Nous avons des cas de Bukangalonzo, comme l'a souligné mon prédécesseur, mais Bukangalonzo ne produit pas un peu, une quantité suffisante de nourriture qui pourra tant bien que mal servir toute la population de la RDC. Aujourd'hui, aujourd'hui nous avons la plupart des jeunes qui sont un peu au chômage et aussi des ingénieurs agronomes. Si l'on créait même une situation de minoterie à travers la République, cela pourrait toujours aider les jeunes à se débarrasser, à trouver un peu des espaces pour la meilleure un peu en termes de culture. C'est qu'il y a beaucoup de sortes de cultures, même l'agriculture et autres, mais cette politique est un peu compromise sur ce plan-là, mais aujourd'hui, nous espérons que la désorganisme est fâché pas mais les autres, mais c'est pas nécessairement important pour nous. Nous devons aussi nous suffire, parce que c'est pas toujours espérer à l'exportation que l'importation. C'est que M. Thierry, nous aimerions un peu en ce moment précis demander aussi au gouvernement congolais aussi au ministre ayant l'agriculture dans ses attributions de bien vouloir aussi instaurer des systèmes qui pourront dans l'avenir aider le jeune à se débarrasser, ça c'est la population congolaise, à se débarrasser de cette paresse là, de toujours espérer à l'extérieur, les œufs d'un père, la farine, les soies qui viennent toujours à l'extérieur, c'est pas nécessaire aujourd'hui. Si la famille bat son pain, c'est suite à la paresse des citoyens congolais et aussi du gouvernement congolais qui ne s'implique pas dans des situations pareilles. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas de manipulations un peu nombreux à travers la République. Tout ça aussi,
Alors pour vous, Gervais, la question aujourd'hui, hein, c'est d'arriver à assurer vraiment une bonne politique de la sécurité alimentaire, et ça c'est très intéressant, vous l'avez dit, il faut que les objectifs soient définis clairement, surtout en ce qui concerne la relance de l'agriculture, on doit avoir des objectifs bien définis clairement. On est revenu sur le projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo, nous en avions parlé plusieurs fois dans Parole aux auditeurs, où beaucoup de gens avaient estimé qu'il y a eu plus de 50 ou 70 ou 90 millions de dollars investis dans ces projets, mais pour lesquels on n'a pas vu aujourd'hui les résultats en termes de lutte contre l'insécurité alimentaire. Et ça ne revient qu'aux politiques de pouvoir définir cela, mais sans beaucoup plus compter, hein, comme on le voit, Olivier le disait, on compte plus sur les bailleurs de fonds, sur les partenaires extérieurs, mais quand il y a les projets comme avec le Programme Alimentaire Mondial, l'ACF et les autres, hein, ils investissent, mais quand ils sont partis, le problème, on revient à la case du départ, c'est qu'il faudrait aujourd'hui, comme le disait aussi Alain sur la page Facebook, une politique structurelle pour arriver à résoudre la question de la malnutrition. Merci beaucoup Gervais Urbain, vous êtes à Ouvira. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci beaucoup Radio Kapi. Merci, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi. Moi, juste, je voudrais proposer ou suggérer au bailleur des fonds et au gouvernement congolais d'intégrer l'approche résiliente, l'approche communautaire résiliente pour la lutte contre la malnutrition chronique. Parce que si on peut vérifier, parce que nous avons eu le temps à sillonner l'est de la République et le centre de la RDC où nous avons été au Sankourou et où la malnutrition chronique bat son plein et dans la zone de santé de Bunyantiri. Et alors, nous pensons que l'intégration de l'approche communautaire où on intègre en alimentation des nourritures jeunes enfants en créant des cellules communautaires de base où il y aura des activités d'éducation à la santé, éducation à la nutrition, parce que nous avons découvert que l'ignorance fait partie des grands problèmes au niveau de la sécurité alimentaire. Car dans certaines zones, il y a beaucoup d'aliments, mais compte tenu de l'équilibre alimentaire, vous trouverez que la population ou la tranche d'âge ou la catégorie vulnérable toujours tombe dans la malnutrition chronique ou tombe dans la malnutrition sévère aiguë, la nutrition modérée. C'est compte tenu au manque à l'équilibre des aliments. Et ça fait partie. Pour lutter tout ça, il faut une éducation alimentaire et éducation à la santé, éducation pour la nutrition en intégrant l'approche communautaire pour la résilience de la malnutrition chronique. C'est ce qu'il faut proposer ou suggérer à ceux qui vont intervenir avec ces fonds de la Banque mondiale pour vaincre la malnutrition, parce que notre pays est potentiellement riche et on ne comprend pas avec les interventions des humanitaires qui viennent avec des actions de saupoudrage. Et alors, oubliant qu'il y a des organisations locales, il y a des organisations nationales qui peuvent bien jouer le rôle de l'éducation, le rôle d'intégrer les actions communautaires au niveau de la base pour combattre la malnutrition, parce que la malnutrition chronique a des conséquences graves et se continue, parce que on est en train de faire un cercle vicieux avec les interventions d'urgence, ça nous amènera à rien. Mais nous devons intégrer l'approche communautaire, l'approche pour un développement durable, l'approche qui prône la sécurité alimentaire, c'est ce qui va nous amener à lutter contre la malnutrition chronique. Parce que la malnutrition chronique a beaucoup de conséquences, et ce qui amène même le niveau bas de nos enfants, donc future génération, parce que la malnutrition chronique joue sur l'intellect et des êtres humains. Et alors, avec cette malnutrition chronique, comme à l'Est, comme dans deux zones dont je viens de citer, l'Homme est là, et la zone de santé de Vouyakir, où nous avons eu la chance à faire des évaluations rapides sur la malnutrition chronique avec des agences, des organisations internationales, mais nous avons dit, nous devons retourner, nous devons consolider les actions au niveau communautaire, parce qu'avec les humanitaires, et ils viennent, c'est comme s'ils sont des touristes, et ils t'envoient. Et nous les intervenants au niveau local, nous devons vraiment intégrer cette approche communautaire, approche résiliente pour la lutte contre la malnutrition et en faveur de la sécurité alimentaire. Je pense que c'est que nous pouvons suggérer comme ce qu'il faut intégrer pour ceux qui vont, ceux qui auront la chance d'avoir ces fonds, parce que avec la Banque mondiale, on comprend avec leur lourdeur de procédure, on ne sait pas ce que ça va nous amener.
Merci beaucoup, hein, Urbain, pour toutes ces précisions. Vous avez beaucoup insisté. Et ça, sont les éléments techniques, hein, assez concrets qu'il faut prendre en compte dans cette question des luttes contre la malnutrition. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs commentaires sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Jules, vous êtes avec nous en direct, mais il y a aussi votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs avec des éléments clairs de propositions que vous avez données tout à l'heure. Merci beaucoup, hein, Urbain. Jules, bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. C'est Magdalene Kakoumbo, Jules, depuis la ville de Bukavu. Nous tenons d'abord à féliciter la Banque mondiale avec ce financement, mais aussi nous tenons aussi à féliciter, donc nous encourageons les organisations qui vont rendre donc cette idéal donc une chose trop sérieuse, mais d'entre eux déjà j'ai proposé au moins trois solutions pour que le gouvernement congolais puisse gérer au moins ce fléau. Premièrement, je veux dire que c'est l'implication d'abord stricte du gouvernement congolais, parce que c'est à lui que tout le monde va être lésé en comptant plus au gouvernement congolais, parce que c'est à lui qui revient la tâche de garantir la sécurité alimentaire à la population congolaise. Nous n'allons pas dire qu'ici nous pouvons faire un développement dans notre pays s'il y a encore la faim qui bat son record sur toute l'étendue du territoire national. Je pense que cela sera nul et sans effet. Je voulais aussi dire qu'il faut que le gouvernement fasse tout le mieux possible pour qu'il organise au moins le rouge de certains agricoles. Donc, si, par exemple, par rapport à monsieur le journaliste, ici chez nous, au Sud Kivu, nous sommes dans une province où il y a au moins 8 territoires, et si je vois le territoire de Chabunda, par exemple, là, on produit, mais il n'y a pas de route pour que donc tous ces produits-là puissent arriver ici chez nous, dans la ville de Bukavu. Alors, vous verrez là, les gens meurent de faim, alors que nous avons la production, mais nous n'avons pas. Et pour faire arriver la production dans des milliers de consommations. Deuxièmement, je veux dire que c'est la population aussi. La population aussi va se prendre en charge, parce que j'ai l'impression que la population congolaise, la majorité d'elle, a besoin de travailler dans des bureaux. Alors que nous tous, nous ne serons pas dans des bureaux. Je pense qu'avec le système de rentrer dans des villages, de travailler pour que nous ayons au moins un rendement, nous pourrons, je dirais, cela. Donc, si nous faisons seulement la politique de travailler, en tout cas, je ne pense pas que notre pays puisse aller de l'avant. Maintenant, je tiens aussi à dire à tous les auditeurs de la radio papier et au gouvernement, surtout que j'insiste, de faire tout pour tout pour qu'on ne puisse pas avoir encore ce genre des chiffres astrales des enfants malnutris, parce que notre pays peut nourrir toute l'Afrique, mais aussi le reste du monde. Maintenant, c'est une chose très grave que notre pays aujourd'hui n'arrive pas à nourrir toute un catastrophe. millions de la population, alors que nous avons la potentialité de faire nourrir même toute l'Afrique. Maintenant, quand même nous n'arrivons pas à nourrir ces 80 millions d'habitants, maintenant, toute l'Afrique, nous avons au moins 80 millions de arabes. Maintenant, nous ne faisons rien de tout cela. Donc, c'est tout ça, messieurs les journalistes. Je vous remercie de
m'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il revient d'avoir une politique assez clair au niveau du pouvoir public, mais il y a cette question des routes et des dessertes agricoles. Vous l'avez soulevé, Jules, au sud Kivu, il y a beaucoup qui cultivent, c'est bien sûr, mais on a des problèmes aujourd'hui. Comment évacuer les produits de lieux de production vers les centres de consommation, ça pose un problème. Bismarck et Makatazo sur la page Facebook, selon lui, la plupart de ces cas est dû au conflit armé et au manque des formations. Alors pour lui, il faut arriver à lutter contre les groupes armés et c'est par là qu'on peut arriver aujourd'hui à instaurer la sécurité. Ça c'est selon Bismarck Guillaume Makatazo qui nous écrit depuis Bunyakiri en territoire des Calais. Alors Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Merci de nous avoir rejoint dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Oui, vous êtes là, Marie-Paul, on est ensemble.
Ok, d'accord. Monsieur le journaliste, il faut noter ceci, que tous ces indicateurs, tous ces indices de la pauvreté de la population de la République démocratique du Congo certifient davantage la lardeur des sous-développements et les non-engagements de l'État dans ses tâches régaliennes. Alors, devant un pareil phénomène, monsieur le journaliste, il est bien dommage que de constater que ça soit la Banque mondiale qui finance la prise en charge des enfants mal nourris en République démocratique du Congo, alors que nous avons un État sur place. Voilà pourquoi cette inoffensive de l'État congolais alimente les débats quant à ce qui concerne la responsabilité ou la souveraineté des États dans la prise de la situation qui trouve sa population. Il y a un problème là déjà, vous voyez qu'avec cette histoire, la souveraineté est presque démise. Et voilà pourquoi, face à cette calamité, monsieur le journaliste, moi je propose que l'État congolais doit se ressaisir. L'État congolais doit se ressaisir afin d'appuyer ces humanitaires, parce qu'on ne peut pas laisser. Aujourd'hui, les humanitaires ne peuvent pas venir substituer à l'État congolais. Il revient d'abord à l'État congolais d'assumer ses responsabilités. Alors, comme l'État congolais s'est montré failli, s'est montré un peu fondu par rapport au désastre qui est ces jeunes de la Sibis ou la population tout entière, alors l'État doit ressaisir, il doit venir en appui de ces humanitaires. Et c'est cet appui-là qui va faire à ce que la lutte soit vraiment efficace, parce que si on laisse seulement les humanitaires, et aussi il y a un auditeur qui est revenu là-dessus, avec le processus de déboursement de l'argent des finances chez la Banque mondiale, ce n'est pas une mince affaire. Ça risque d'augmenter encore beaucoup plus de désastres parce que nous sommes déjà dans une situation d'urgence. L'État congolais doit se ressaisir déjà avec l'émission ou avec tout ce que les gens disent ici. Et au-delà de cela, monsieur le journaliste, l'État congolais doit mettre en place une politique économique. Nous insistons sur la politique économique. Aujourd'hui, la RDC, des choses que nous constations, les enfants mal nutris, ça ne pouvait pas être en RDC, c'est parce que nous avons tellement de terres arables. Mais ce qu'il faut ici, c'est parce que nous avons des dirigeants qui ne réfléchissent pas sur la manière de booster la l'agriculture en RDC, la manière d'en tirer l'économie en RDC. Voilà parce que ces gens-là ne s'occupent que de la reine du pouvoir, ils négligent l'aspect économique. Voilà, nous connaissons des choses qui nous permettent vraiment, qui nous rend vraiment trop ridicules. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, au XXIe siècle, on ne peut pas avoir des enfants qui souffrent par la malnutrition. Voilà pourquoi j'ai dit que On ne peut pas passer développer un État lorsque les gens souffrent encore de la famine. Non, c'est extrêmement grave.
Et alors là, vous avez presque, merci beaucoup Marie-Paul, vous avez rejoint Richard Chibamba qui nous écrit des Kananga en disant ceci, c'est une honte pour nous que ce soit les autres qui financent même le programme de lutter contre la malnutrition, que ce soit financé par la Banque mondiale. Dans un pays comme la RDC, faudra-t-il aujourd'hui que des partenaires viennent financer la nourriture pour nos enfants alors que nous avons la possibilité de nourrir ces derniers? Est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent sur cette question, qui estiment que si on avait une bonne politique d'investissement dans le secteur agricole, on ne pourrait pas aujourd'hui recourir aux partenaires extérieurs pour financer la lutte contre la malnutrition. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine.
Funky. Tout sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous avons notre ami Adoubango Dieudonné qui nous écrit depuis Mukambo Mahagi. Pour mettre fin à cette situation, l'État congolais devrait imposer la paix tout en assurant la sécurité de sa population et les bien-être social, valoriser l'agriculture avec des semences améliorées aux agences des Nations Unies et ses partenaires, soutenir le gouvernement congolais avec des mécanismes préventifs plutôt que d'agir quand la situation est déjà pire. Sensibiliser aussi les leaders communautaires en vue de retransmettre à la communauté ainsi qu'à la population les connaissances, améliorer le repas quotidien en consommant plus de légumes et puis respecter intégralement les mesures préventives, car chez nous au Congo, nous avons tous plus à réagir plutôt qu'agir en amont. Joseph, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga, Lubumbashi c'est bien d'aller au Katanga. Merci beaucoup Joseph, merci d'être avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot et la Mégie, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne dans l'émission.
On vous écoute.
Alors, il y a à peine deux mois que je viens de l'intérieur de la province, dans le territoire de Moba. Et l'état des routes, Pierrot, ça laisse à désirer. Je vais te faire rire. J'arrive à un endroit, dans un restaurant de fortune. On prépare la viande de vache, une très bonne viande de vache, à moins cher, mais dans cette viande, il n'y avait pas d'huile de palme et du sel. Parce que dans cette zone, pour avoir de l'huile de palme et du sel, c'est un miracle. Mais juste dans à peine 60 km de ce village, il y a du sel à moindre prix et l'huile de palme à moindre prix. Mais l'état de la route, ça laisse à désirer. Et quand vous regardez la population de ces villages-là, eux-mêmes cultivent des choses, mais ils ne savent pas les évacuer, ce qui fait qu'ils ont des choses qui peuvent revendre pour avoir de l'argent, mais à cause des tas de routes, ces cultivateurs, ces agriculteurs, ils cultivent des choses. Par exemple, je vais te dire, à Lubumbashi, nous achetons trois bananes, pas bio, avec des engrais chimiques à 1000 francs. Mais dans la zone où je te cite, d'où je viens, tu achètes une banane à 50 francs ou à 100 francs et c'est bio. C'est le même prix pour une orange bio. Mais on s'est dit, comment dans un pays comme celui-ci où tout le monde cultive, mais on ne sait pas évacuer les produits des champs dans les centres de consommation. Nous ne savons pas non plus évacuer les choses dont les villageois ont besoin dans leur village pour être en bonne santé. Je vais te faire rire pour terminer. On arrive dans un village, on trouve qu'il y a une ONG, PAM, hein, qui vient distribuer la farine jaune ici. La farine jaune qui date, on ne sait pas de combien d'années aux États-Unis là-bas, et dans ce village où on cultive le vrai maïs, mais on vient leur distribuer la farine jaune. Mais si on pouvait s'atteler sur les routes, il y a certaines choses qu'on pouvait éviter, même si on ne peut pas éviter toutes choses, hein, mais il y en a qu'on peut éviter. Donc, si les auditeurs reviennent sur l'état de route, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Je dis et je vous remercie.
Merci beaucoup, cher Joseph. Vous êtes à Lubumbashi. Cette expérience, c'est... imaginez-vous que vous arriviez dans un restaurant, on vous prépare une très bonne viande de vache, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas du sel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route pour que la population à ces niveaux arrive. Et c'est ça un grand problème aujourd'hui. C'est-à-dire que la qualité même de la nourriture qui est consommée dans certains milieux pose problème parce qu'il n'y a pas de connectivité entre ces populations et les centres d'approvisionnement. Voilà autant de problèmes qui se posent aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous insistez beaucoup sur le fait qu'il faudrait aujourd'hui arriver à investir dans l'amélioration des routes et des dessertes agricoles comme nos sont revenus là-dessus pour permettre à ceux qui produisent à l'arrière-pays soient capables d'apporter cette nourriture dans les centres de consommation et vice-versa aussi, parce qu'il y a aussi certains produits que les gens ont besoin d'avoir à l'arrière-pays qui ne peuvent pas avoir parce qu'il n'y a pas de route. Merci beaucoup. On reste à la ville de Lubumbashi avec vous, Jérémy. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour. Merci beaucoup, M. Pierrot, et nous saluons la thématique hein, alignée en ces jours, comme vous le savez, étant un secteur majeur et des grands pays qui se sont alignés sur cette piste en savent au moins quelque chose, l'État bien sûr des États-Unis, mais il se peut malheureusement que dans notre pays, on néglige bien ce secteur, on pense que il n'y a que les gisements miniers qui peuvent au contraire payer. Comment est-ce que nous pouvons lutter à cette malnutrition malnutrition qui crie vraiment aux oreilles des Congolais et, nous sommes ici à Lubumbashi, M. Pierrot, je vais vous dire quelque chose un peu. Vous savez qu'ici à Lubumbashi, lorsque la Zambie ferme, ça veut dire que les Congolais sont dans la souffrance inquiétante. Mais je me dis, quelle est la politique que le gouvernement impose ou imprime pour que notre pays décolle dans ce secteur? Jusqu'à quand le Congo tendra toujours la main à gauche, à droite? Mais pourtant, nous avons des terres fertiles, nous avons tout ce qu'il faut pour que notre pays décolle sur le plan agriculture. Et en plus, il y a aussi certaines choses qui arrivent aux Congolais au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas travailler ou cultiver naturellement comme c'était dans les temps. On est en train d'utiliser les intrants qui empoisonnent également la population congolaise. Est-ce que l'État congolais ne peut pas prendre des mesures qui s'imposent pour cesser, ne plus que s'organiser dans ce secteur, prenant ce secteur comme étant la priorité avant que les autres n'arrivent? Parce que je me rappelle, lorsque nous mettons les cultivateurs et un riche, nous les mettons à deux, et nous voyons que l'agriculture, l'agriculteur, qu'est-ce que je veux dire, celui qui cultive prime sur les autres. Parce que c'est de là que proviennent toutes les choses que nous avons dans notre vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministère qui a la en charge souvent et ce secteur n'arrive même pas à imposer sa marque? Et on en change, on a des ministères qui défilent là-bas, mais et des ministres qui défilent, mais rien jusque-là n'est fait dans ce secteur. Ouais. Alors, je pense qu'il est plus que temps, on ne va pas toujours attendre de la Banque mondiale. Je pense que l'État congolais est à même de se suffire dans ce secteur, ne plus que mettre sur pied une bonne politique adéquate. Et je pense que notre pays peut décoller. Je me rappelle le président lors de la prestation de son investiture en avait parlé. Je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, on doit regarder à gauche, à droite, mais on doit juste chercher un peu à revoir ces choses. Parce que nous voyons que l'agriculture ne peut pas marcher sans les conditions, sans que les routes soient vraiment réfectionnées. Et aujourd'hui, quand vous regardez nos routes que nous avons, c'est un état vraiment de délabrement avancé et on ne sait pas si c'est dans quel pays nous sommes. Nous avons des villes semblables vraiment aux villes, pas des villes au vrai sens du mot. Alors,
Et d'ailleurs, s'il faudrait revenir à cette question, Jérémy, de considérer l'agriculture comme une priorité, on se rappellera lors de la rencontre de Maputo au Mozambique il y a quelques années, le pays africain s'était engagé à augmenter le budget alloué à l'agriculture jusqu'à 10% de leur budget. Cela veut dire, par exemple, pour la RDC, si nous avons un budget de 5 milliards de dollars, cela veut dire qu'il fallait ramener le budget de l'agriculture à plus de 500 millions de dollars. Alors, c'est comme ça que ces pays africains avaient pris l'engagement. Faudrait-il arriver à cela, et c'est ce que vous souhaitez d'ailleurs, et c'est ce que beaucoup souhaitent. Je regarde sur la page Facebook Nelson Betuma et John Hassan Kisulu, les deux reviennent sur ce paradoxe de voir le pays comme la RDC et attendre que d'autres personnes viennent nourrir les enfants congolais pour lutter contre la malnutrition. Ils auraient aimé, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent sur la page Facebook, ils auraient aimé voir ces partenaires extérieurs apporter de l'expertise en termes des innovations agricoles plutôt que voir l'argent financier uniquement parce qu'il faut acheter la nourriture aux enfants, aux millions d'enfants congolais malnutris, alors qu'ils pourraient amener leur expertise à la RDC et permettre ainsi au pays d'élaborer des politiques agricoles capables de lutter contre l'insécurité alimentaire. Merci beaucoup, hein, Jérémy. Marcel, vous êtes à Luisa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot et la MJ. Bonjour également à tous les millions d'auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute.
Monsieur Pierrot, avec moi, si vous pouvez entrer dans ma logique. Moi, j'ai la chair des poules. Hein. J'ai la chair des poules et plus la honte quand on voit un pays à la dimension continentale comme la RDC avec toutes les potentialités que vous connaissez vous-même. On parle aujourd'hui de la malnutrition. Regardez un peu les chiffres statistiques là, Monsieur Pierrot. On vous parle de 6 millions de malnutris et de 2 ou 4 millions qui manifestent déjà la malnutrition. Sur une population estimée à 80 millions d'habitants en République démocratique du Congo, et donc quelque chose de 10 millions déjà de malnutris. C'est vraiment un paradoxe, Monsieur Pierrot, pour un pays comme la République démocratique du Congo. Donc, c'est comme l'ami là venait de le dire, il est tellement urgent que nous puissions savoir d'abord quelles sont les grandes causes de cette malnutrition. Vous allez voir que dans un pays où l'insécurité est répétitive, vous pouvez penser que la population qui se déplace puisse avoir le temps de cultiver, comme M. Perrault. Et alors, les guerres fratricides, d'échecs
Mais alors, Marcel, s'il vous plaît, quand on regarde, vous êtes dans les territoires de Luisa au Kasaï central, on sait que Luisa a été, hein, depuis des générations, les greniers agricoles de la province du Kasaï occidental dans le temps, qui partaient aussi jusque vers le Katanga. Quel est l'état aujourd'hui? Parce que peut-être qu'il y a eu, bien sûr, ces affrontements qui ont provoqué des mouvements des populations, mais à ces jours, quel est l'état de la question agricole dans les territoires de Luisa? Il a été toujours considéré comme les greniers pour le Kasaï.
Les greniers pour les Kasaï, mais vous allez voir, est-ce que le territoire de Luisa est appuyé? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer quand même, M. Perrault, nourrir une population quand elle n'est pas appuyée de manière industrialisée. Aujourd'hui, nous attendons peut-être les appuis du gouvernement. Le gouvernement doit s'investir à financer de sorte que les étendues des forêts qui sont vides ici sont aussi quand même cultivés de manière moderne, et en ce moment-là, on peut nourrir une bonne frange de la population, M. Perrault. Mais parce que tout le monde veut être bureaucrate, tout le monde veut déconsidérer l'agriculture, c'est ainsi que vous voyez actuellement, même dans les territoires de l'île, vous dites que c'était un grenier. Aujourd'hui, vous avez vu avec l'appui de la Banque mondiale et de Vision Wade, tout ça, ils sont venus remettre un peu de l'argent. Est-ce que ça, c'est une solution durable selon vous, M. Perrault? Non, ce n'est pas une solution durable. Vous allez donner de l'argent aujourd'hui, un peu de farine aujourd'hui, mais quand ça va se terminer, comment est-ce que vous allez pouvoir recommencer la vie? Vous allez voir que nous sommes encore devant un grand défi de revalorisation de ce secteur agricole, M. Perrault. Et ça regarde l'État. Que l'État ne puisse pas avoir comme si c'était un cadeau. Ça, c'est un grand défi à la face du monde, qu'il doit nécessairement donner beaucoup d'importance à ce secteur. Et vous allez voir même que les ministres des tutelles de l'agriculture voient comme si c'était un ministère qui qui n'est pas beaucoup plus favorisable. Et c'est ainsi qu'il peut même négliger. Donc, il a un grand défi aussi également à relever. Donc,
merci beaucoup. Merci Marcel. Il y a un grand défi à relever dans les secteurs de l'agriculture. Vous avez insisté sur Louisa en disant aujourd'hui, il n'y a pas assez d'appui. Mais notre invité de l'émission d'hier a insisté sur un programme de relance agricole avec une expérience pilote à Louisa. On va voir dans avec le temps la production et ce que cela va produire pour le pays. Et on va comparer hein, avec ce qui a été dit parce qu'il y a plus de 5 millions de dollars investis par le gouvernement pour ces projets. On pourra voir les résultats à l'avenir. Mais on ne peut pas y arriver si on ne considère pas, on ne revalorise pas, comme vous l'avez dit, les secteurs agricoles. Parce que rappelons qu'au quand on sortait de l'indépendance, la RDC était le premier producteur mondial du manioc, deuxième producteur mondial de l'huile de palme. C'est-à-dire qu'il y a quand même des chiffres qui montrent que la RDC avait déjà beaucoup investi et travaillé dans les secteurs agricoles. On n'a qu'à pouvoir considérer cela. Samuel Kianza, sur la page Facebook, à mon avis, le mécanisme efficace pour mettre fin à la situation de la malnutrition et l'amélioration des conditions sociales des Congolais en donnant un salaire conséquent aux parents, à l'aide duquel ces derniers pourront prendre facilement leurs enfants en charge en leur donnant une nourriture de qualité. Kabuit, vous êtes à Likasi. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, Radio Okapi.
On vous écoute.
Je pense que je vais donner un autre son de cloche. Tout en appuyant tous ceux qui viennent de me précéder, mais moi je vais m'adresser directement au chef de l'État, le nouveau président Tshisekedi. Je lui demande de prendre un peu, d'appliquer la dictature quant à ce problème d'agriculture. Tous les ministres qui vont composer le nouveau gouvernement, je veux demander au président de la République de leur demander chacun de faire un champ avec, je ne sais pas, 5 hectares, 10 hectares, parce qu'ils sont, ils ont quand même la possibilité. Regardez le cas des cas où j'habite. La pauvre population qui fait des petits champs ouvriers, ils sont déplacés. Les amis qui viennent investir dans les mines prennent ces terres-là qui sont plus proches des habitations. Alors, les gens qui sont des agriculteurs, qui n'ont même pas de possibilité, sont obligés de faire des kilomètres à pied. Imaginez un peu quelqu'un qui fait 15, 20 kilomètres à pied pour aller trouver son petit champ. Quel type d'étendue de champ qu'il va cultiver? Moi, je pense que les ministres, tous ceux qui ont fini par faire le pouvoir, doivent être obligés de travailler des champs et être très sévères avec eux. Le président, en commençant par lui-même, il peut prendre le bout en galon de l'élargir entre temps, chaque ministre obligé, chaque ministre national ou provincial, député national, provincial, au lieu qu'ils mettent l'argent à l'étranger, et puis après, on nous dit non, tel pays a bloqué l'argent, il a bloqué. Qu'ils nous aident, parce qu'ils doivent aimer aussi notre pays. Ils doivent cultiver l'amour patriotique. C'est en faisant des champs que le problème de faim, c'est ça qui retarde, même dans le mental. On ne peut pas bien raisonner quand on n'a pas mangé.
Voilà, et ça c'est important parce que ce que vous avez dit Kabuit, c'est très important parce qu'aujourd'hui on le sait bien, un enfant qui a le problème de nutrition va aussi avoir un problème de développement mental, tout est lié. Alors pour vous, il faut d'abord commencer par les membres du gouvernement, cela veut dire les ministres nationaux, les ministres provinciaux, les députés nationaux, les députés provinciaux, imposer, obliger à chacun d'avoir au moins un champ. Parce qu'ils ont de moyens, ils vont mettre leur argent dans des banques
à l'extérieur, pourquoi ne pas investir cet argent-là dans la culture, alors qu'à commencer par le chef de l'État, que chacun aille et puisse avoir un champ, et ils pourront produire pour l'ensemble de la population, mais aussi hein, travailler pour permettre à la population qui travaille en milieu rural d'avoir des routes, des moyens nécessaires pour pouvoir évacuer les produits de leur production. Et c'est ça qui peut conduire vraiment à la lutte contre la malnutrition. Sylvain, vous êtes à Bounia. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Si vous voulez, commencer par présenter mes condoléances à toutes les familles trouvées chez moi en Ituri. Comme vous le savez, l'Ituri traverse finalement un moment le plus difficile de son histoire. Et aussi, puisque nous parlons de cette histoire du développement agricole et de la lutte contre la malnutrition, il faut dire que cette conséquence néfaste de la guerre risque de ne pas épargner la province de l'Ituri. Alors, si tout de suite me permet de condamner tout ce qui se passe en Ituri, sur différentes violences, et aussi les différents acteurs impliqués. Ils doivent comprendre que l'Ituri n'a plus besoin de cette histoire de conflit entre nous, mais l'Ituri a besoin de son décollage et de son développement. Et tout de suite, ils doivent abandonner leurs armes et reprendre la houe pour le développement de l'Ituri. Alors, pour aborder le sujet, monsieur le journaliste, il faut dire que les gens qui étaient venus avant moi, ils ont essayé un peu déjà de placer le débat dans son contexte actuel. Et j'ai comme l'impression, ça n'engage que moi, c'est qu'au niveau de la politique du Congo, l'agriculture ne fait pas l'objet de la priorité. Alors, vous savez, je l'ai toujours rappelé dans cette émission, que toute économie qui semble être forte doit d'abord baser son triangle sur les secteurs agricoles. Et je ne suis pas parmi ceux qui pensent que il faut aujourd'hui rapidement aller vers les idées ou les slogans de l'émergence, du développement, sans que nous puissions développer les secteurs primaires, puisque c'est ce secteur-là qui est le socle de tout développement. Alors, nous avons une population qui, aussi, dans son mental, n'a pas l'approche de l'auto-prise en charge alimentaire, puisque s'il faut faire des analyses, vous allez vous rendre compte que dans la statistique qui doit être dégagée, on risque de se retrouver avec un tiers de la population qui pratique l'agriculture. Donc il faut vite aller vers une politique de nature, chaque famille est l'opé des terres agricoles, pour qu'il y ait une production d'abord familiale au niveau de chaque famille, puisqu'il ne faut pas oublier que ce sont les familles qui consomment, Donc la plus grande politique aujourd'hui doit être boostée au niveau de nos familles. Et c'est que ça doit être même une obligation. Une famille qui n'a pas l'opé des terres, je crois que ça doit faire un objet au moins de poursuite. Hein. Il faut que le pouvoir public puisse s'interroger sur le fonctionnement de cette famille. Donc, j'ai comme l'impression aussi, depuis un moment donné, c'est plus le secteur secondaire, le secteur minier, mais aussi le secteur tertiaire, qui essaye d'occuper le mental du politique congolais en abandonnant le secteur qui est basique, celui d'abord d'autosuffire à l'alimentation. Et comme vous le dites, il faut que les gens comprennent que lorsqu'on met en place une politique, que ce soit au niveau national et au niveau provincial, et d'ailleurs même au niveau des ETD, puisqu'il faut aujourd'hui qu'on se dise notre constitution garantit un développement à la base, au niveau des villages, au niveau du gouvernement, au niveau de chefferies, des secteurs, il faut qu'il y ait une politique de nature à propulser la lutte contre la malnutrition. Maintenant, il y a toujours cette histoire où on achète des tracteurs, on les laisse dans les chefferies de provinces, on les amène dans des villes, mais ça va faire quoi? Le milieu rural, économiquement parlant, doit être le premier milieu à être ciblé, puisque aujourd'hui, il faut aussi qu'on soulève cette question de l'exode rural. Tout le monde veut vivre en ville, et les gens sont en train de vider les villages, bien sûr, pour beaucoup de conséquences, comme chez nous, par exemple, c'est la guerre qui aujourd'hui chasse les gens des milieux ruraux, avec toutes les conséquences possibles. Et donc, je dis au niveau de notre pays, il faut une politique de nature à stabiliser la RDC, ça c'est le plan sécuritaire. En même moment, il faut qu'il y ait des politiques adjacentes au niveau des entités les plus retirées, ça veut dire les ETD, et si je parle bien des villages, où on doit vérifier qui fait quoi. Chaque famille, comme l'auditeur qui m'a précédé, il a dit une chose de très importante, c'est le cas du Kenya. Le Kenya, les ministres isolent leurs champs, les officiels isolent leurs champs, c'est chaque samedi que chacun doit aller dans son champ vérifier comment il produit. Et d'ailleurs, vous savez, dans les calculs du PIB, c'est cet élément-là qui intervient, la production de chacun, la valeur ajoutée de chacun.
Alors, je pense que cette question doit être vraiment
considérée avec beaucoup plus de priorités. Merci beaucoup à Sylvain, parce que là, il nous reste un peu de temps pour terminer. Krinovic est à Kananga et nous avons ici Monsieur Dédé Mopassa, député national, je crois qu'il est avec nous à Kinshasa. Krinovic à Kananga, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tout le monde qui écoute la radio Capi en ces heures.
Et en bref, parce qu'on doit chuter pour permettre au dernier intervenant de s'exprimer, quel est votre point de vue par rapport à cette question de la malnutrition?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je sais que toutes les idées ont été déjà avancées et ça tourne autour d'un seul secteur qui est le secteur agricole qui est négligé ici. Je vous donne un exemple. En 2017, j'ai effectué un voyage dans un territoire, dans le territoire du Dubaï, bien entendu, dans un secteur. Quand je suis arrivé, le PAM était là en train de donner des vivres aux gens. Et tout le monde a abandonné l'agriculture et tout le monde s'est donné vraiment à avoir aussi ce que PAM donnait. Et qu'est-ce que PAM donnait? C'était que la farine, des manioc, des patates, tout ça. Et nous avons des terres fertiles qui produisent ça. Et juste après le passage de PAM, allez-y dans ce secteur-là ou dans ce territoire-là, mais vous venez ici à Kananga, en ville, on achète un méga de maïs à 1500, et là on en vend à 3000. Et ce sont les gens de la ville qui quittent avec leur maïs pour aller vendre là au village.
Et là quand même c'est un drame que ça arrive ainsi comme ça dans une province comme le Kasaï central, mais on a connu le problème qui sont arrivés aussi dans cette province. Mais merci beaucoup, hein. On a que 2 minutes pour permettre à notre dernier intervenant, Dédé Mopassa. Vous êtes avec nous ici à Kinshasa, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, je prends le mien, toutes les interventions, mais là je veux intervenir tout simplement pour donner des dimensions de politique comme on en a dû. Mm-hmm. Politique agricole ou de alimentaire. Il y a un problème très sérieux. D'abord, la nature de l'aliment. On a perdu nos aliments, des cueillettes, depuis qu'on fait l'agriculture. Je vais dire par exemple dans les Bandundu, chez moi, il y a la chikwang. Vous voyez un peu la chikwang, qu'est-ce que ça peut donner dans la vie d'un individu, comme protéines, protides, tout ça. Quels sont les éléments constitutifs des aliments que nous consommons? Mm-hmm. Ça, c'est un problème. Nous devons, en tant que l'État, donner des semences, orienter l'alimentation vers des produits qui construisent un corps, qui donnent de la vie au corps humain. Et nous sommes vraiment éparpillés dans les alimentations un peu hasardeuses et tout ça. Donc, les fruits que la nature nous a donnés, le chenille que la nature nous avait donné, le tout ce qu'on avait dans la cueillette, depuis qu'on a adopté cette politique de culture orientée, organisée, on perd aussi la constitution des aliments pour construire le corps. De l'autre côté, les amis qui viennent nous aider, ça c'est pas une façon de nous aider, pas mais tout le reste. Nous produisons localement, peu importe, le maïs et tout ce que vous voulez. Mais pourquoi ils viennent pas nous aider à nous appuyer, à ranger ces routes, ou alors d'acheter localement? Parce qu'on dit il y a des produits, mais on ne sait pas l'évacuer. Mm-hmm. Ça, c'est du côté richesse des produits de l'agriculture. Mais quant aux produits pour subvenir à ses besoins domestiques alimentaires, il y en a dans les villages. Alors, mais pour ça, pourquoi PAM n'achète pas localement? PAM nous amène, j'ai dit ici PAM comme tous les autres, il nous amène seulement le surplus de leur production. C'est qu'il y a un problème en international. Il ne peut pas nous amener des surplus. On a parlé de maïs jaune ici, on en a connu de Zimba, mm-hmm, partout. Donc, ils doivent venir avec de l'argent, parce que nous, on participe dans tous ces traités, dans tous ces accords internationaux. Mais alors, qu'ils amènent l'argent, qu'ils achètent localement et qu'ils donnent cette nourriture localement.
Merci
vous
beaucoup.
Vous allez voir au même, mm-hmm, moment qu'ils alimentent, ils donnent aussi de la richesse. Ça va aider à se procurer du sel, autres produits qu'on a besoin.
Merci beaucoup. Merci. Mm-hmm. Merci beaucoup, Dédé Mopassa, d'être avec nous à Kinshasa. Merci aux uns et aux autres. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets. Le débat s'est poursuivi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde, Nico Kalambay à la réalisation. Paroles aux auditeurs, vous retrouve le lundi pour des nouvelles aventures. Mais là, on vous souhaite un agréable week-end en compagnie de Radio Capi et surtout de cette émission est sur www.radiocapi.net. Merci et au revoir.